Voilà, bonsoir à vous tous. Nous sommes contents d'être de retour en Alsace, chez vous. Nous nous sentons toujours comme en famille, chez vous. C'est formidable. Comme Luc a déjà dit, nous nous sommes installés maintenant en France. Nous sommes à Villefranche-sur-Saône et nous sommes en train de découvrir ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas à Villefranche, dans cette zone. Par exemple, nous avons découvert que nous sommes devenus des Caladois, parce que les habitants de Villefranche, on les appelle Caladois. Donc, nous sommes en train de découvrir les origines. J'ai appris aussi que la ville de Villefranche, elle a été construite par les sires de Beaujeu. Et ils ont donné une franchise aux étrangers pour les inciter, pour les motiver à s'installer là-bas. Donc la semaine passée, nous sommes partis, on a eu une rencontre avec le maire de Villefranche. Je lui ai posé la question, est-ce que cette franchise de l'époque, est-ce qu'elle est toujours valable jusqu'à aujourd'hui? Donc nous sommes venus pour réclamer notre franchise. Il a dit, vous êtes les bienvenus, mais je suis désolé, il n'y a plus de franchise aujourd'hui. Donc c'est un peu pour blaguer. Mais... voilà, mais c'était étonnant, parce qu'il a dit, je vous connais déjà. Parce que lorsque nous sommes entrés dans l'appartement de notre immeuble, on avait mis une petite lettre de présentation dans toutes les boîtes à lettres, avec notre photo, et il nous dit, je vous connais déjà, puisque j'habite dans le même immeuble que vous. Donc, voilà, nous croyons que ce n'est pas un hasard, parce que nous sommes en train de prier pour les gens de Villefranche. Nous voulons les toucher avec l'évangile de Jésus. Voilà. C'est juste pour vous donner quelques nouvelles de notre part. Nous sommes comme un jeune couple. Nous vivons parmi des cartons. Donc, on a commencé avec des matelas à gonfler, des tables de camping, des chaises à plier, etc. Maintenant, on a déjà passé à une autre étape. On a déjà un vrai lit. Mais il y a d'autres choses encore qui manquent. Voilà. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est par la foi. Voilà. Je suis très content d'être là. Et j'aimerais juste... dans cette notion de notre arrivée, de notre installation en France, à Villefranche, nous sommes en train de prier, Seigneur, utilise-nous pour être une bénédiction pour les habitants de notre maison, pour notre voisinage, pour notre ville et au-delà. Et je suis en train d'étudier comment Jésus lui-même a béni les gens autour de lui. Et spécialement, je m'intéresse comment Jésus a fait des miracles. Parce que souvent, les miracles, c'était les miracles qui ont attiré l'attention des gens et après, ils ont ouvert leur cœur pour écouter la parole de Jésus. Donc, ce soir, j'aimerais vous mettre dans ma suite pour découvrir quelques miracles de Jésus. Parce que j'ai découvert, il y a certains principes qui se répètent toujours. Les miracles ne sont pas les mêmes, mais dans tous les miracles, il y a quelques traces, quelques principes spirituels qui se répètent. Et si ce soir, vous êtes là, avec une situation, où vous dites vraiment, Seigneur, moi aussi, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin que toi, tu interviennes dans ma situation. Parce que je n'ai pas de solution. Seigneur, il faut que toi, tu fasses un miracle dans cette, telle ou telle situation. Je ne sais pas si c'est au niveau de la santé, au niveau des relations, au niveau du travail, au niveau... Je ne sais pas. Le Seigneur, il te connaît. Je crois qu'il veut te parler ce soir. Le Seigneur, il aime faire des miracles. Il est le faiseur des miracles. Et il n'a pas cessé de faire des miracles. Il veut refaire encore des miracles dans ta vie. Il faut y croire. Et ça nous aide aussi de comprendre certaines choses. Bon, quelles sont aussi parfois les conditions que nous devons remplir pour que le Seigneur puisse faire un miracle. Est-ce que vous voulez l'apprendre? Vous êtes là? Vous êtes curieux? Voilà. Commençons par le premier. En Actes 3, versets 4 à 8. Nous allons lire ces versets, Actes 3, versets 4 à 8. C'est là où Jésus, à travers Jean et Pierre, a guéri un boiteux qui était mendiant à la porte du temple de Jérusalem. Si nous pouvons l'afficher, ce serait bien. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, donc ils ont rencontré cet homme qui était devant la porte et je crois que Pierre et Jean passaient plusieurs fois, peut-être déjà Jésus avant, il passait devant ce mendiant. Donc c'est écrit, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Ce qui m'a touché ici, que cet homme, il s'attendait à recevoir quelque chose. Bon, il était mendiant. Je suis sûr, il s'attendait à recevoir de l'argent. Mais cette attitude était importante. Il s'attendait à recevoir quelque chose. Donc, ça, c'est très important, c'est de ne pas dire, non, bon, si Dieu veut, il peut me guérir. Si Dieu veut, il peut faire un miracle. Non, il était prêt à recevoir. Donc, il était dans une attitude de recevoir. Maintenant, il reçoit cette parole de Pierre, « Je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et qu'est-ce qui vient après? C'est Pierre qui le prend par la main. Donne-moi une main, s'il te plaît. Donc, Pierre le prend par la main. Est-ce qu'à ce moment, il est déjà guéri? Non. Hey, il n'est pas encore guéri. Donc, Pierre lui aussi, par la foi. Donc, et le boiteux, et Pierre, tous les deux avaient cette foi. Maintenant, Dieu va faire quelque chose. Mais au moment même où il a pris la main, le miracle n'a pas encore eu lieu. Mais il le saisit et le met debout. Et au moment où il le met debout, ses pieds, ses chevilles deviennent fermes, sont guéris. Voilà, merci. C'était juste un exemple. Ça me rappelle, un jour, j'étais en Afrique, on a prêché l'évangile, et on a prié pour les malades. Il y avait Et on était dans la foule, entouré par des personnes. Donc, on était en équipe, on priait pour les gens. Il y avait un footballeur, un jeune footballeur, qui venait avec. On pouvait lire les douleurs dans son visage. Et il parlait une langue que je connais. Il parlait Thomas. Donc, il parlait très peu français. Mais il indexait sa cheville. J'ai vu, il y avait des bandes autour de la cheville. Il ne pouvait pas marcher. Difficilement marcher. Mais il voulait qu'on prie pour lui. Il était musulman. Il avait entendu la parole de Jésus. Il a eu la foi. Si on prie, Dieu va faire quelque chose. Donc, j'ai prié. Et certainement, il n'a pas pu entendre ma prière parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Après, j'ai seulement dit « Amen ». J'ai dit « Maintenant, essaye ton pied et marche ». Il me regarde. Il regarde son pied. Il dit « Oui, oui, fais un pas, un deuxième pas ». Il me regarde encore, il regarde son pied. Il fait « Oui, continue et marche plus vite ». Et il a commencé à courir et à sauter. Il a dit « Je suis guéri, je suis guéri ». Il a enlevé les bandes. Il était guéri. Et ça m'a... Ça m'a rappelé, lorsque j'ai lu ce passage avec le boiteux, la guérison se produit lorsqu'il a commencé à bouger. Lorsqu'il a fait un pas. Et plus qu'il a avancé par la foi, plus la guérison se manifestait. C'est complété. Nous lisons deuxième texte, deuxième miracle pour ce soir. C'est Marc 5. Beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire avec la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5, verset 25 jusqu'à 30. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état était plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Juste restons sur ce verset pour un instant. Elle a entendu parler de Jésus. Est-ce qu'elle était déjà guérie? Non. Est-ce qu'elle est restée assise là où elle était pour dire, voilà, le Seigneur n'a qu'à venir m'imposer les mains maintenant. Et s'il veut, il va me guérir. Non, non, elle n'a pas chauffé les chaises comme vous. Actuellement, vous êtes en train de chauffer les chaises. Mais par la foi, elle se levait pour toucher Jésus, pour venir vers Jésus, pour toucher son vêtement. Pas derrière. Continuons. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. C'est ici où le miracle se produit. C'est à ce moment. Ce n'est pas au moment où elle avait entendu parler de Jésus. Lorsqu'elle avait entendu parler de Jésus, à travers ces paroles de Jésus, il y a une conviction qui a grandi dans son cœur jusqu'au point où elle a dit, « Ah, aujourd'hui, c'est mon jour. » Aujourd'hui, nous connaissons cela. Parfois, on a juste une espérance. On a juste un souhait, une espérance. Mais un moment donné, ça devient comme une ferme conviction, une ferme assurance. Je suis sûr. Et c'est ça ce qu'elle a exprimé avec sa bouche. Elle a dit, si seulement je peux toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas dit, si seulement je peux toucher son vêtement, peut-être ça va marcher. Bon, si ça ne marche pas, je vais essayer encore un autre truc. Non, elle a dit, elle était convaincue. Mais à ce moment, donc, juste comprenons, parce que j'ai vu ce principe plusieurs fois. Il y a la parole qui crée quelque chose dans le cœur. Et lorsque la parole pénètre, elle devient une conviction forte. Et cette conviction forte mène à une action, à un certain pas. Les pas peuvent être différents. Par exemple, cette femme, d'abord, elle a parlé. Et elle s'est avancée aussi. Et puis, il y a l'action de Dieu qui est déclenchée. Même dans ce verset, si on continue, en même instant, la personne s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et le prochain verset, Jésus dit, mais il y a quelqu'un qui m'a touché, parce que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements ? Il y a plusieurs personnes qui avaient touché Jésus parce qu'il était dans la foule. Donc, il était bien frotté, il s'est bien frotté avec les gens. Mais il savait, il y a une personne, elle m'a touché d'une autre manière, d'une manière spéciale. Cette personne, elle m'a touché par la foi. Et c'est là, j'ai senti comme un courant électrique qui est sorti de moi. Bon, je ne sais pas, mais j'imagine. Il a senti, il y a une force qui est sortie de lui. Donc ce que j'ai compris, c'est que parfois dans cette situation, lorsque nous nous attendons à un miracle, c'est important que nous demandons au Seigneur, « Seigneur, quelle est ma contribution ?» Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse? Quel est le pas que moi je dois entreprendre? Demande-le. Le Seigneur, lui, il veut faire aussi. Il veut agir. Mais souvent, il y a aussi un pas à faire de ta part. Il se peut qu'il va te dire, va chez le médecin. Ah non, ce n'est pas ça ce que je voulais entendre. Dieu peut passer par des médicaments, par des médecins, mais il peut aussi faire des choses d'une manière tellement surnaturelle que personne ne comprend comment il a pu être guéri. Mais pourvu que tu écoutes, Seigneur, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin que tu me touches, j'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être libéré de ces douleurs. Écoute-le, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il n'y a pas quelque chose, on ne peut pas généraliser cela. Il y a quelques années de cela, il y a 4 ans de cela, que j'étais opéré au cœur. Et on a prié pour que le Seigneur fasse un miracle. Il y a nos amis en Afrique, ils priaient, ils jeûnaient. Ils disent, non, Hachim, t'en fais pas, tu n'iras pas à l'hôpital. Le Seigneur va faire le miracle. Je dis, oui, moi aussi j'ai prié, mais vraiment, d'accord, je leur ai dit au téléphone, ou bien, oui, ou par Skype. D'accord, si le Seigneur fait le miracle jusqu'à dimanche soir, gloire à Dieu. Sinon, lundi matin, je me présente à l'hôpital, parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital. Dans ce cas, le Seigneur a passé par les médecins. Plus tard, un cardiologue, une année plus tard, un cardiologue m'a consulté, il a dit, mais celui qui vous a opéré, c'était un spécialiste, il a fait ça comme si c'était nouveau. Voilà, le Seigneur a passé par les mains de quelqu'un. Mais j'ai plusieurs, d'autres, une fois j'étais au Burkina Faso, j'ai eu le paludisme. J'avais encore un comprimé d'aspirine. J'étais dans la brousse. Vraiment, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. J'étais dans un projet agricole. J'avais juste une mobilette. Et la fièvre, je tremblais à cause de la fièvre. J'avais près de... Je n'avais même pas de thermomètre. Mais certainement, j'avais autour de 40. Et je priais, et j'étais tellement convaincu que le Seigneur va me toucher. Et j'ai eu juste à cœur de prendre ce seul comprimé d'aspirine. Et je me suis levé, et j'étais faible, je devais marcher comme ça pour ne pas tomber. Et j'ai eu l'occasion de voyager parce que je devais aller à la capitale de Ouagadougou, à 300 kilomètres. J'ai eu l'occasion, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a proposé, je peux voyager avec lui, sa voiture, mais derrière, c'est une voiture bâchée, donc avec toute la poussière derrière, avec les secousses, tant que malade, ce n'est pas chose facile. Mais pas à la fois, je suis monté sur ce pick-up. J'ai voyagé 300 kilomètres. À l'arrivée de Ouagadougou, j'étais complètement guéri. Donc, le Seigneur, il aime répondre à nos prières. Il aime faire des miracles. Il est le faiseur des miracles. Il fait ses miracles comme lui il veut et aussi autant qu'il veut. Nous, il n'est pas dans notre poche, mais il nous a montré ici à plusieurs reprises, il a dit, demande-moi et vous recevez. Je vais raccourcir un peu. Peut-être tu as un besoin financier, tu as besoin d'une provision du Seigneur. Jésus a fait plusieurs miracles de provision. Lorsque les scribes, les pharisiens ont approché Pierre, il dit que ton maître, il ne paye pas le tribut, il ne paye pas la taxe pour le temple. Donc Pierre est venu vers Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu vas payer la taxe annuelle pour le temple? Jésus lui dit, bon, normalement, moi, je suis le maître du temple. Je ne devais pas payer ici. Mais pour calmer les gens, pour ne pas scandaliser les gens, va, prends la canne à pêche, tire le premier poisson et ouvre-lui la bouche. Et tu trouveras une pièce. Et ça, ça suffit. Et donne la leur. On dit comme ça en français. Donne la pièce à ces personnes-là. Et tu auras payé la taxe pour toi et pour moi-même pour une année. Ça, quel miracle! Quel miracle! Bon, actuellement, avec le Rhin, ça, c'est peu probable de trouver même un poisson. Avec l'état actuel, c'est un peu difficile. Mais c'est toujours étonnant lorsque Dieu fait quelque chose. Il nous surprend toujours. Imagine-toi, tu prends un poisson, et il y a quelque chose de précieux dedans. Il y a de l'argent dedans, dans sa bouche. Non, ça c'est quelque chose de jamais vu. Mais est-ce que ce miracle est tombé du ciel? Il n'est pas tombé du ciel. Il n'est pas non plus tombé à l'eau. Il est plutôt sorti de l'eau. Non, il fallait un homme qui prend une canne à pêche, qui reçoit cette instruction. Ça, c'était le pas de Pierre à faire dans ce miracle. Le miracle, c'est Jésus-Christ qui a fait. Mais Pierre a participé à cela. Il fallait faire sa part dans ce miracle. Donc, prendre la canne à pêche, jeter et tirer et ouvrir la bouche et sortir la pièce d'argent. Amen. C'est la même chose avec la multiplication des pains. Il y avait un besoin, Jésus a vu la foule. En Jean 6, vous pouvez lire ça. Il a vu la foule, il a dit, est-ce qu'on va renvoyer toute cette foule? Mais parce qu'ils ne peuvent pas trouver, c'est un lieu désert, ils ne peuvent pas trouver à manger ici. Donc, il dit, il pose la question à ses disciples. Et Philippe lui dit, non, c'est impossible, on a 200 dénars, on ne peut pas nourrir 5000 personnes. L'argent est trop petit, trop peu. Mais Jésus l'a dit pour le tester. Après, il y a André, le frère de Pierre, qui dit, « Voilà, Seigneur, il y a un garçon avec 5 pains et 2 poissons. Ce n'est pas grand-chose par rapport à cette foule-là, mais il y a quand même quelque chose. » Jésus a pris ces 5 pains et ces 2 poissons et les a multipliés de sorte que tout le monde a pu manger. Il a même inclus ici encore les disciples. Il les a inclus deux fois. Premièrement, ils devaient apporter ce qu'ils avaient, le peu qu'ils avaient. Et deuxièmement, c'est eux qui devaient distribuer. Il y a même la récompense des disciples à la fin, parce qu'il y avait 12 corbeilles avec le reste. Donc pour chaque disciple, tout un corbeille. Donc, moi, pourquoi je vous le dis ça? Parce que je l'étudie, parce que je veux le voir ici en France. Je veux voir que Jésus fait des miracles ici en France. Il a fait un miracle pour moi il y a 40 ans, lorsque j'étais sur le vélo, en allant de l'Allemagne en Espagne, où le Seigneur m'a guéri dans le Jura. J'avais une double hernie, c'était très douloureux. Donc je sais que le faiseur des miracles habite ici en France. Il est là. C'est ici en France que je l'ai rencontré pour la toute première fois. Et je pense qu'il n'a pas changé. Ce qu'il a fait autrefois, il veut le faire aujourd'hui encore. Je crois à cela. Je veux le voir. C'est pour ça que j'étudie ces miracles. Pour comprendre aussi, Seigneur, quelle est ma part dans les grands miracles que toi tu veux faire. Amen. Peut-être tu es là et tu cherches une direction du Seigneur. Et je veux terminer avec ce thème, avec ce point-là. En Hébreux 11, verset 8, nous lisons qu'Abraham, par la foi, il a quitté son pays. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Et le Seigneur lui a dit « pars », mais il ne lui a pas dit « où ». Et il a trouvé dans cet homme cette foi et cette obéissance de faire le premier pas. En croyant, bon, le Seigneur va déjà me montrer le deuxième ou bien le troisième pas. Mais au moins, il a fait le premier pas. Ici, c'est encore, Dieu a fait un miracle pour que Abraham, avec tous ses troupeaux, toute sa grande famille, soit déplacé d'un pays à l'autre, dans le pays Canaan. Mais ça s'est passé par la foi. Par la foi et l'obéissance. Ou bien, lorsque le peuple Israël, lorsque Dieu leur a dit d'entrer dans la terre promise et de prendre la ville de Jéricho. Et la ville de Jéricho, c'était la ville la plus fortifiée à l'époque. Il y avait des murs très forts autour de la ville. Et nous connaissons cette histoire que Dieu a fait écrouler, fait écrouler les murs, s'écrouler. Oui, les murs, ils se sont effondrés dans la terre, complètement. C'est Dieu qui a fait ce miracle extraordinaire. Les païens ont parlé des siècles et des siècles de ce miracle. Mais tu sais comment Dieu a fait ce miracle? Il a fait participer le peuple. Il devait marcher, la bouche fermée. Il y avait interdiction de parler. Pour ne pas murmurer. Oh, qu'est-ce qu'on fait là? Non, non. Parce que le peuple Israël aussi, il était en train de râler tout le temps. Oh, 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 oh. Mais Moïse, Josué, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Donc, pendant 7 jours, il devait faire le tour de la ville. Il n'avait pas le droit de parler pour ne pas se décourager entre eux. Le septième jour, il devait faire 7 tours. Et le septième tour, il devait sonner les trompettes et maintenant ouvrir la bouche et chanter des cris de victoire. Et à ce moment, le mur s'effondrait, s'écroulait. Oui. Voyons encore, miracle de Dieu. Et ce que l'homme devait faire. Parce que Dieu aime t'inclure dans ce qu'il fait. Il aime que tu te fais participer. Celui, la gloire, c'est pour lui, c'est pas pour toi. Mais il veut le faire ensemble avec toi. C'est à toi de demander, Seigneur, quel est mon prochain pas dans cette affaire? Qu'est-ce que toi tu veux que je fasse? Alléluia. En acte 16, nous lisons que Paul et son équipe voulaient annoncer l'évangile, ils voulaient obéir à la grande commission. Ils sont partis en Mysie, en Bithynie, et le Saint-Esprit leur a refusé. Nous lisons ça en acte 16. Donc, ils voulaient obéir au Seigneur, mais le Seigneur leur a refusé d'entrer dans telle région, après dans telle région. Après, ils sont arrivés dans une ville et Paul a eu une vision la nuit. Dieu lui a pas, il a vu un homme macédonien, macédonien, c'est ça, merci. Un grec, il dit, viens, aide-nous. Et le matin, il se levait, il se consultait avec son équipe. Et c'est écrit là, ils concluaient que Dieu les appelle pour aller en Grèce, en Macédoine. C'est ainsi que l'évangile est venu jusqu'en France. Parce que eux, ils ont obéi. Mais à cette époque, ils n'ont pas eu, à ce moment, ils n'ont pas eu une parole très précise de la part du Seigneur. Donc, c'est venu aussi dans leur équipe. Ils ont analysé, ils ont prié, ils ont dit, voilà, si le Seigneur a donné ce rêve, cette vision, donc ils ont conclu ensemble. Donc, nous croyons que c'est le Seigneur qui nous envoie. Ils ont fait un premier pas après. Donc parfois, je veux terminer par cela. Parfois, nous ne recevons pas toujours des paroles très précises. Fais-t-elle ou bien fais-t-elle. Parfois, c'est juste une intention. Parfois, tu ressens quelque chose, tu n'es pas sûr. Là, c'est bon qu'on se voit en groupe, en équipe, dans l'équipe de l'église, dans l'équipe là où tu es responsable. Vous priez ensemble ou bien en tant que couple. Vous échangez, je ressens tel, l'autre dit, je ressens tel. Et finalement, en priant, voilà, il y a une conviction qui est là. Voilà, c'est ça ce que nous devons faire. Seigneur, par la foi, nous faisons ce pas. Et Seigneur, toi, fais ton pas, fais ton miracle. Interviens dans notre situation. Amen. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, je veux terminer. J'aimerais prier pour vous, pour toi. Je ne sais pas si tu es là, dans quelle situation. Est-ce que toi aussi tu as besoin que le Seigneur intervienne dans ta situation? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit oui, moi vraiment j'ai besoin d'une solution de la part du Seigneur? Juste lève ta main, j'aimerais prier pour toi. J'ai un besoin, j'ai une souffrance, j'ai une situation compliquée où je ne vois pas de solution. J'ai besoin que le Seigneur intervienne dans ma situation. J'ai besoin de son aide, j'ai besoin de son miracle. Merci, merci pour vos mains, merci, merci. Alléluia, alléluia. Alléluia. J'aimerais prier pour vous, mais j'aimerais prier aussi dans ce sens. J'aimerais libérer ce miracle, cette action de Dieu dans votre vie. Mais j'aimerais aussi prier dans ce sens que le Seigneur vous montre quelle est votre contribution, quel est votre pas à faire dans cette situation. Ça peut être un petit pas. Ça peut être aussi un pas, je ne sais pas. Mais tu peux le savoir seulement en contact avec lui. Et il faut que ça crée une conviction en toi, comme pour cette femme avec la perte de sang. Elle savait, elle savait, rien ne va se passer lorsque je reste assis comme ça. Il faut que je me lève, il faut que je touche le vêtement de Jésus et je serai guérie. Elle était convaincue. Juste levons-nous, spécialement les personnes, levons-nous tous. J'aimerais prier pour vous. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Nous te louons Jésus, tu es merveilleux et tu es là avec toute ta puissance et tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu n'as pas changé, le miracle que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui et demain, parce que tu n'as pas changé. Toute la puissance, tout le pouvoir t'a été donné. Tout pouvoir sur la terre, dans le ciel et sur la terre t'a été remis. Merci Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Tu es le créateur de tout l'univers. Et je libère ton intervention maintenant. Tu as vu ces personnes qui ont besoin de toi, qui ont besoin d'une solution de toi, d'une direction de toi, d'une intervention, d'un miracle de toi. Au nom de Jésus, je les libère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, passe de personne en personne maintenant. Touche chacun au nom de Jésus. Je libère ta présence et ta puissance au nom de Jésus sur chacun au nom de Jésus. Viens sur chacun et dirige ses pensées et parle lui aussi. Parle à chacun qui a besoin de ton attouchement. Parle lui pour qu'il connaisse, pour qu'il sache dans son cœur le pas qu'il doit faire lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, je reçois. Nous recevons de ta part, Seigneur. Nous recevons de ta part des solutions divines, des directions divines. Guérison divine au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vois aussi dans mon cœur, il y a quelqu'un, ou bien peut-être il y a deux, je ne sais pas, une ou deux personnes, ils n'ont pas encore Jésus dans leur cœur. Tu crois en Dieu, mais tu n'as pas encore une relation personnelle avec Jésus. Et le Seigneur te dit, il suffit que tu ouvres la porte. Si toi tu ouvres la porte, le Seigneur te dit, voici je me tiens à la porte de ton cœur. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Et je serai avec toi, je souperai avec toi. Donc, le Seigneur, il veut entrer dans ta vie. Il veut te faire sentir qu'il est là, qu'il t'aime et qu'il te pardonne aussi toutes tes fautes. Mais il veut que toi, que tu l'invites, que tu lui dises, oui Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur, viens dans ma vie, viens dans mon cœur, j'ai besoin de toi.